Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de coups bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui la plus forte, le podcast qui tranche toutes les rivalités, même celles auxquelles personne n'avait pensé. Aujourd'hui, c'est Baston de Diva. Elles dominent les charts, elles dansent comme des déesses, elles sont tout le temps sapées comme jamais, et leurs tubes ne laissent personne indifférent. Je veux parler de Rihanna et Beyoncé. Aujourd'hui, on va vous dire qui c'est la meilleure. Pour arbitrer ce duel de reines de la musique, il me fallait une spécialiste de la pop musique féminine et féministe. Et cette spécialiste, c'est Amélie, qui officie notamment dans le podcast Les Rois du Monde des Stones, etc. Salut Amélie, comment ça va?
Ça va Martin, et toi?
Bah ça va très bien, merci.
Je suis ravie d'être ici, merci pour l'invitation.
Bah de rien, écoute, j'espère qu'on va pas se faire trop interrompre par le chat, comme ça vient de se produire à l'instant.
C'est pas grave, c'est le côté un peu sauvage de cette émission.
Alors, avant de faire monter nos deux divas sur le ring, Amélie, est-ce que je peux te demander de rappeler rapidement qui est qui, si jamais?
Tout à fait, donc Beyoncé, aussi connue sous son nom complet Beyoncé Knowles, ou encore Queen Bee, donc c'est l'une des plus grandes chanteuses américaines de pop de ces dernières années. Elle s'est d'abord fait connaître en 1997 dans son trio de Destiny's Child, avant de lancer sa carrière solo. Et on connaît aussi d'ailleurs hein, sa sœur, Solange Knowles. Quant à elle, Riri, c'est Rihanna, c'est rapidement devenue une concurrente de notre chère Beyoncé. Elle est aussi une chanteuse, hein, barbadienne. Ses débuts, on s'en souvient, c'était en 2005 et c'était déjà de gros succès. On va y revenir tout bientôt.
Très bien. Eh bien, écoute, place au combat. Comme d'habitude, on va avoir 5 rounds. Une chanteuse sera victorieuse à chaque tour et la première à atteindre les 3 points aura gagné. Alors, premier round, qui a le plus vendu d'après toi et d'après tes recherches?
Alors, et ben justement, c'est assez marrant que tu poses la question de d'après moi et d'après mes recherches, parce que naïvement, je pensais, comme peut-être beaucoup de gens en écoutant ce podcast, que c'était Beyoncé qui avait le plus gros chiffre à son actif. Et en fait, selon les chiffres que j'ai pu trouver, qui sont des chiffres certifiés par les organismes, parce que oui, ça arrive, on certifie des chiffres de vente, parce que souvent on connaît la tendance des maisons de disques à gonfler les ventes. Et bien en fait, selon ces chiffres, c'est clairement Rihanna qui est on top of the list, avec plus de 280 millions de ventes. Donc elle laisse sur la touche une Beyoncé qui se tient à 81 millions, donc on est quand même à 200 millions d'écart, ce qui est quand même pas rien. Après, soyons justes et comparons aussi le nombre d'albums, hein, parce que effectivement, si Riri en fait 4 quand Beyoncé en fait 1, forcément elle vend plus. Mais en fait, on se rend compte que même là-dessus, elles sont quand même assez équitables, puisque Rihanna est à 8 albums studio, 1 album de bande-son, 2 compilations, 2 albums de remix et une réédition, donc un total de 14. Et notre chère Beyoncé est à 6 albums studio, 4 albums live et 3 EP, donc un total de 13. Donc clairement, les fans de Beyoncé sont moins chauds que ceux de Riri. Et d'ailleurs, petit point fan pour briller en société, les fans de Beyoncé se font appeler la Beehive, à traduire par essaim d'abeilles, en référence à son nom de Queen Bee, littéralement la reine des abeilles. Et les fans de Rihanna se font appeler la Rihanna Navy. Bon, là par contre, faut pas me demander d'expliquer parce que j'ai absolument aucune idée.
Alors j'avais une théorie, hein, j'avais pensé que c'était par rapport à sa participation au film Battleship.
Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a un truc comme ça.
Mais j'y ai réfléchi et je pense qu'en fait, c'est pas ça. Je pense que c'est parce qu'elle est fan de Michel Polnareff, qui se fait appeler l'amiral par ses fans.
Ah, mais je pense que c'est plus ça, parce que même dans ses coupes de cheveux, ça se ressent que c'est une fan de Polnareff.
Bah oui.
Je pense que tout est lié.
Alors, J'ai une réflexion là qui me vient en tête, dont j'ai oublié de te parler hors antenne, donc c'est une surprise. Dans le cas de Beyoncé, on pourrait aussi ajouter les albums vendus avec Destiny's Child.
Oui, tout à fait. J'ai choisi de ne pas en prendre compte. Et en fait, même si on les prend en compte, Riri est quand même première. Donc ouais. En fait, on ne va pas lui faire l'affront de prendre ça en compte, parce que sinon, même en cumulé, et même si elle voulait, même si on découvrait qu'elle avait un autre groupe, et voilà, en fait, elle n'arrive pas à battre Rihanna. Donc en fait, juste restons à un à un. Enfin, une personne contre une personne, c'est moins.
C'est vrai. Ce serait pas juste.
C'est moins shaming pour pour Beyoncé. Et aussi, c'est l'occasion de signaler aussi que Rihanna, c'est la première artiste au monde à franchir le cap de 100 millions de ventes numériques aux États-Unis.
Ouais, j'ai lu que Rihanna était la reine du numérique en termes de ventes, qu'elle avait, elle explosait tous les records à ce niveau-là. C'est sans doute ce qui fait aussi qu'elle vend beaucoup plus apparemment que Beyoncé au final, parce que je sais que dans les classements dont tu parlais, les certifications. Il y a une espèce de norme aussi qui consiste à considérer qu'un certain nombre d'écoutes sur les plateformes de streaming équivalent à une vente physique, etc. Il y a tout un truc avec ça. Je sais aussi que Rihanna a battu beaucoup de records sur YouTube en termes de visionnage de vidéos.
Ah ouais, j'avoue, je ne savais pas. Mais il y a souvent beaucoup de travail sur ces clips, enfin en même temps sur Beyoncé aussi, et même peut-être beaucoup plus d'ailleurs Beyoncé.
Oui, c'est vrai.
Qui fait presque des films à chaque fois qu'elle sort un clip.
Oui.
Mais du coup, oui, ce côté numérique, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle s'entend très bien avec Emmanuel Macron, hein, Rihanna. Ce côté un peu love
Start-up
du numérique,
nation.
Start-up nation. Nous pouvons, essayer des hypothèses. Voilà.
Donc ce premier point est remporté par Rihanna.
Effectivement.
Alors, deuxième round, deuxième point d'affrontement. Qui est la meilleure musicienne, ou alors qui a fait les meilleures chansons selon un panel représentatif constitué de toi et moi?
Alors, du coup, là, c'est vraiment un avis subjectif par rapport au premier point qui est très objectif. Pour moi, Beyoncé est clairement la plus grande à la fois musicienne et meilleure chanson créée. Bon, faut savoir que déjà Beyoncé, c'est une vraie compositrice. J'ai fait quelques recherches et en fait, Rihanna doit être à 26 chansons, il me semble, qu'elle a coécrite. Enfin, voilà. Quant à Beyoncé, sur le processus de composition, elle est à 52, il me semble. Donc on est quand même au double. Et sinon, de manière générale, Beyoncé a quand même eu beaucoup de tubes assez incroyables. Alors, vous me direz Sodos Riri. Mais il y a quand même des trucs à noter. Enfin, je pense notamment au gros tube des dernières années et qui a été un duo vraiment incroyable. On la retrouvera peut-être dans un prochain épisode, notre chère Lady Gaga. Donc le duo Téléphone, donc qui est sorti, je sais plus, dans le début des années 2000. Pareil avec un clip incroyable, etc. Et du coup, donc Beyoncé était en feat avec Lady Gaga et c'est... Enfin, pour moi, c'est un des plus gros duos en fait de ces dernières années. C'est vraiment hyper badass. D'ailleurs, j'ai revu un tweet la semaine dernière qui disait Bon, à la fin du clip, c'est marqué « To be continued ». Franchement, on attend parce que effectivement, c'était très, très prometteur. Je pense aussi à Beyoncé sur Lemonade, qui est une chanson que... Enfin, sur tout l'album Lemonade, qu'elle a écrit après l'aveu de Jay-Z qu'elle l'avait trompé.
Ah oui.
Donc ça avait fait un énorme truc et puis c'était un bon coup marketing aussi, on va pas se mentir. Hein. Comme quoi, voilà, les hommes qui nous trompent des fois, ça peut être des bons trucs. Hein. C'est d'ailleurs le cas avec Adèle. Hein. Adèle, si elle avait pas eu autant de soucis avec ses mecs, elle aurait peut-être jamais vendu autant. Donc c'est cool. Mais voilà, j'avais fait une petite sélection des tubes et moins tubes qui sont vraiment hyper chouettes de Beyoncé. Je pensais notamment à If I Were a Boy. J'y reviendrai après, mais du coup, c'est un de mes gros préférés parce que très féministe. Je pense aussi aux deux tubes qui sont assez frissonnants. C'est pas français, mais qui vraiment lâchent des frissons, je trouve. C'est Hello et Listen. Qui sont des tubes vraiment très doux et où vraiment on entend la capacité vocale de Beyoncé. Comment ne pas penser à Crazy in Love, qui est... Enfin, moi, personnellement, tu me mets cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de danser, mais vraiment. Tu me mets ça en début de soirée, tu sais que je vais sur la piste de danse, en fait, littéralement. Je ne sais pas si c'est ton cas, Martin.
Non, mais bon, je comprends.
Il y a vraiment un truc... Et puis, moi, je sais que c'est un truc de mon enfance aussi. Et je revois Queen Bee dans son clip, là, qui arrive avec ce vent contre elle et tout. Mais c'est incroyable. J'avais aussi sélectionné Sand Castles, qui est moins connu. Love on Top et Countdown. Ces deux-là sont un peu connus, mais moyens. Et Rihanna a aussi de très belles musiques. Je pense notamment à California King Bed, à Russian Roulette, à Unfaithful, qui avait été aussi un gros tube, à Drunk on Love, qui sample The XX, un gros kink sur Fall in Love, et j'avais aussi noté Stay, évidemment, et Love on a Brain, dans l'album Anti, donc Anti, je sais pas trop comment ça se dit, mais du coup c'est dans les derniers albums, et vraiment très chouette. Voilà.
Donc tu donnes le point de tes chansons préférées à Beyoncé, mais bon, après, même objectivement, on peut juste se baser sur le critère qui est que Beyoncé est créditée beaucoup plus comme autrice ou compositrice que ne l'est Rihanna. Donc,
complètement.
Puisque la question était qui est la meilleure musicienne. Mmh. En tout cas.
Après, avant d'accorder le point, même si en fait ça va aller encore en faveur de Beyoncé, on avait parlé d'éventuellement parler un petit peu de tout ce qui est collaboration, oui. Sample, etc. Et en fait, on se rend compte que Riri, elle a beaucoup samplé. Ouais. L'un de ses plus gros tubes, c'est Don't Stop the Music, qui est du coup qui est samplé sur Michael Jackson. Il y a aussi Cheers, qui est basé sur les Yeah Yeah de Avril Lavigne. Et toi, Martin, tu en as aussi une à ajouter.
Ouais, c'était ma découverte du week-end, puisque pour rien cacher à personne, j'ai dû rattraper beaucoup mon retard dans la discographie l'une et de l'autre ce week-end. J'ai passé beaucoup trop de temps à écouter Michel Sardou par le passé. Et j'ai découvert cette chanson de Rihanna, Same Old Mistakes, qui est une reprise, une cover même, note par note, de New Person, Same Old Mistake de Tame Impala, que j'aime beaucoup. Par ailleurs.
Et en plus, est-ce que vraiment on peut appeler ça une reprise? C'est vraiment un copier-coller.
C'est quasiment
quoi.
Un mash-up en fait.
C'est
même limite un karaoké en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, vraiment juste, elle a placé un peu sa voix et voilà. Et puis même en fait, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça n'ajoute rien du tout parce qu'en plus elle est sur la même tonalité.
Ah oui, non, mais c'est un. C'est...
Que le chanteur, elle ajoute pas de.
Non.
En fait, il n'y a pas de touche riri dedans.
Ah non, du tout.
Donc c'est assez décevant.
Techniquement, c'est une reprise qui sert à rien, mais qui a le mérite d'amener Tame Impala à un plus large public. Donc
oui,
parce que la chanson est sur l'album, donc c'est plutôt cool de ce point de vue là mais après c'est vrai que...
Et du coup, j'avais noté aussi un petit peu les collabs qu'elles ont pu faire. Ouais. Et du coup Beyoncé, on connaît pas mal ses chansons avec Jay-Z, avec Shakira aussi, ouais. Beautiful Liars, avec Lady Gaga, dont on a parlé juste avant. Et Rihanna a fait beaucoup plus, j'ai l'impression, de collab,
ouais.
Avec Eminem notamment, Love ouais. the Way You Lie, avec Ne-Yo. Je l'ai redécouverte, j'avais complètement oublié ce truc. C'est un titre qui s'appelle Hate That I Love You.
D'accord.
Qui est vraiment une prouesse. Il y a eu récemment une super chanson qui a permis de faire découvrir Paul McCartney.
Oui, c'est vrai.
Donc avec Kanye West et Paul McCartney, 4-5 Seconds. Il y a aussi avec Drake, Work, 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 Calvin Harris, We Found Love et This Is What You Came For. Il y a eu avec David Guetta, Right Now. Donc elle a vraiment tout un panel de collaborations qui est vraiment moindre chez Beyoncé.
Ouais.
Donc en fait, peut-être que aussi c'est, enfin voilà, sans vouloir en enlever à Rihanna, hein, mais peut-être qu'aussi il y a quelques écoutes, pour revenir sur le premier point, qui sont aussi liées à ces collaborations avec des grands artistes aussi. Hein.
Mais ça, c'est un point hyper intéressant, je trouve, c'est que je trouve que Rihanna est, comment dire, extrêmement moderne dans sa façon d'aborder la musique et l'industrie de la musique. Elle démultiplie les collaborations à droite et à gauche avec tout le monde, les featuring. Après, c'est un truc hyper récurrent dans l'industrie moderne de la musique, hein. Beyoncé aussi le fait beaucoup, Nicki Minaj le fait beaucoup, enfin tous les plus gros vendeurs le font, n'arrêtent pas d'aller les uns chez les autres pour maximiser leur couverture, quoi.
Elle arrive quand même à surprendre, parce que effectivement quand elle fait des tubes avec Kanye West ou avec Drake, finalement c'est assez son domaine, même si, comme on le dit, elle a pas vraiment de domaine, mais enfin c'est un peu son style. Je trouve que, enfin voilà, typiquement un tube avec Paul McCartney, enfin c'est pas forcément là-dessus qu'on l'attend, Santana non plus. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une espèce de remise en question et de recherche dans son travail qui est quand même assez chouette à noter.
Donc
en tout cas, oui, je pense qu'on peut rester sur un point pour notre Beyoncé international.
À Queen Bee, ce qui nous fait quoi, un partout.
Ça nous fait un partout, effectivement.
Très bien, on va pouvoir passer au point suivant, qui est la meilleure danseuse.
Alors la meilleure danseuse, du coup, on va passer un petit peu moins de temps dessus parce qu'en fait, je voudrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. En fait, je les ai jamais vus en show, donc j'ai pas envie de parler de trucs que je connais pas. Après, juste ce qu'on peut dire, c'est que typiquement Single Ladies, par exemple, c'est une choré que tout le monde connaît, un peu comme la Macarena ou le Kuduro, tu vois. Même si il y a certaines qui sont plus mieux que d'autres. Donc c'est une musique, tu la mets, tu sais que les gens vont faire cette choré et tout, ces petits pas qu'on connaît tous, voilà, où on montre sa main, etc. Là, vous le voyez pas, mais du coup, je suis en train de le faire en live. mais du coup, et le chat aussi, d'ailleurs.
Le chat le fait, ouais, tout à fait.
Assez incroyable, hein. On vous enverra la vidéo. Mais donc voilà, donc il y a ce truc quand même où en fait Beyoncé, je trouve, bon déjà c'est une flèche qu'elle a à son arc, de toute façon elle est beaucoup plus danseuse, hein, elle a l'étiquette de danseuse, ce que Rihanna n'a pas. Mais ouais, au-delà de ça, je trouve que Beyoncé est beaucoup plus une performeuse que peut l'être Rihanna. Je trouve que Rihanna, elle est beaucoup plus sur le marketing et sur... c'est une grande femme d'affaires, mais peut-être que sur l'aspect spectaculaire, c'est peut-être plus Beyoncé qui remporte le point là-dessus, quoi.
Alors moi, en tant que béotien, j'entends quand même régulièrement parler des shows de Beyoncé, que ce soit Coachella ou le Super Bowl ou des trucs comme ça. C'était même devenu un mème sur internet, son passage au Super Bowl. Et j'ai cru comprendre qu'elle était danseuse de formation, enfin danseuse à la base. Donc Donc, si tu me dis que c'est Beyoncé qui gagne ce point-là, je te suis, je te crois.
Complètement. Et juste une petite reco pour nos auditeurs et auditrices, parce que ce serait dommage de parler des chorégraphies sans parler de ça. Je vous propose vraiment fortement et avec toute la bienveillance du monde d'aller regarder la choré de Umbrella. Dans le show Lip Sync Battle, donc, qui a été reprise par Tom Holland, donc Spider-Man. Et donc d'ailleurs, vous, par la même occasion, vous pouvez écouter l'épisode sur les Spider-Man. Hein.
On n'avait pas mis un point qui est la meilleure, qui fait la meilleure imitation de Rihanna.
C'est-à-dire ?
Dans l'épisode sur Spider-Man.
Ah, oui. Ouais, ça manquait. Mais du coup voilà, Tom Holland qui reprend Rihanna, ça vaut le détour,
c'est
vraiment.
C'est hallucinant.
C'est un danseur incroyable en fait.
C'est hallucinant.
Et c'est quelque chose de... Bon déjà, il est danseur de formation aussi je crois, hein, Tom Holland, il a fait de la comédie musicale, etc. Mais ça se voit en fait, enfin, quand on le voit danser là sur Umbrella avec l'eau, etc. Enfin voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est génial.
Il y a aussi un autre qui est un peu moins impressionnant du coup, mais avec Channing Tatum qui fait Beyoncé dans le même show. C'est un peu moins percutant, mais c'est pas mal non plus. Mais on mettra ça en lien dans les notes de l'émission de toute façon.
Donc un nouveau point pour Beyoncé, on est à 2-1. Hein.
Et on est à 2-1, ouais. Alors, on va pouvoir passer au point suivant. Qui a le meilleur look ?
Et ben là, du coup, on va peut-être rétablir un petit peu les scores. Parce que, du coup, tant dans la mode que dans le beauty, enfin le make-up avec justement sa marque Fenty Beauty, c'est clairement Riri qui mène la danse. Elle a fait beaucoup de collabs avec pas mal de marques, avec MAC, Puma, Armani, Dior. D'ailleurs, c'est la première ambassadrice racisée de la marque Dior, donc c'est assez notable, c'est plutôt chouette. Elle a aussi lancé sa ligne de parapluies justement après le succès de Umbrella. La meuf est vraiment hyper marketing, mais elle a raison en même temps. Mais...
Est-ce que Beyoncé a lancé une marque de téléphone après téléphone ?
Eh ben non, même pas. Décevant. Ou une marque de lemonade, ça aurait été bien aussi,
c'est vrai,
mais non, même pas. Mais donc, véritable femme d'affaires. Et puis ça se voit aussi, quand Riri a un look, globalement, c'est assez suivi. Elle est assez lanceuse de... À défaut d'être lanceuse d'alerte, elle est lanceuse d'influence, de tendance. On peut pas tout faire, mais lanceuse d'alerte de tendance.
Ouais.
Clairement Riri. En plus, elle a eu beaucoup, elle a beaucoup changé de style en fait. Hein. Même elle, dans son image, elle a commencé avec des cheveux très très longs. Je pense au clip de SOS par exemple ou Pound the Replay, qui sont ses premiers tubes. Elle a les cheveux très très longs, bruns. Enfin, en tout cas, je pense que c'est sa couleur naturelle. Ensuite, il y a toute l'époque Take a Bow et Russian Roulette où elle a les cheveux courts. Elle a eu les cheveux rouges aussi avec le moment California King Bed, etc. Elle a été blonde. Enfin, elle est passée un petit peu par tous les looks, par tous les styles vestimentaires. Bon, aussi parce que, heureusement, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elle a commencé en 2005. Donc, si elle avait le même style que 2005, je m'inquiéterais un petit peu, maintenant qu'on est en 2019. Mais voilà, il y a quand même, ça a quand même vachement changé. Alors après, on peut quand même noter la robe jaune de Beyoncé dans Hold Up et ses body aussi qui sont assez... les body de Beyoncé, c'est un peu... Beyoncé sans body, est-ce vraiment Beyoncé ? Du coup, c'est Queen Audi, du coup, puisqu'il n'y a plus le... C'est plus Queen Bee.
Oui.
Voilà, c'était une super blague. clairement, ce point va à Rihanna sans problème. Like Jerry Taylor Swift's award acceptance as Kanye interrupted.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
Ok, donc on est à deux partout. C'est le round final, c'est le moment où elles vont être départagées. Et la question qui nous agite n'est pas qui est la meilleure filmographie, parce que c'est quand même vraiment trop short pour en parler. Et puis, par égard pour Luc Besson, on va pas parler de Valérian. La question qu'on va plutôt se poser, c'est qui est la plus engagée, que ce soit dans les causes féministes ou dans la représentation des minorités, notamment. Il peut y avoir aussi d'autres sujets d'engagement. On sait qu'elles sont toutes les deux assez présentes sur ces deux sujets-là qu'on vient de mentionner. Ça fait parfois un peu débat aussi. Il y a quelques reproches qui fusent de temps en temps d'opportunisme ou de pas en faire assez. Donc, moi, je voudrais savoir ce que toi, tu en penses.
Eh bien, au début, en fait, si on peut être totalement transparent, on pensait à qui est la plus féministe.
Oui.
Du coup, pour moi, c'était assez obvious que c'était Beyoncé, pour plusieurs raisons. Je pensais à son alter ego Sasha Fierce, donc, qui était justement pendant sa tournée et son album I Am Sasha Fierce, qui est du coup son alter ego plus sauvage, plus audacieux, etc. Sa chanson Who Run the World Girls, son titre Flawless aussi, avec des extraits d'un discours de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une figure féministe nigériane, aussi avec son titre Pretty Earth, qui parle de la perfection comme d'un idéal à avoir à un peu n'importe quel prix. Ou encore, j'en ai parlé un petit peu avant, mais If I Were a Boy, qui reprend un petit peu tous les principes et toutes les injonctions faites aux hommes, etc. Et qu'est-ce que ça serait si moi j'étais un mec, etc. Donc clairement, c'est sur le féminisme, c'est clairement Beyoncé. Je pense aussi à ses réseaux. Sur Insta, là récemment, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, elle avait sorti une photo sur son Instagram où en fait elle avait la position de Rosie the Rifter. Qu'on connaît, voilà, c'est cette image avec le bandana rouge, le t-shirt bleu et le bras plié et ce truc du We can do it. Donc elle avait repris ces codes-là et du coup pour montrer aussi son engagement féministe. Donc voilà. Après effectivement, comme tu le dis, c'est très souvent critiqué, mais comme de toute façon les femmes dans la société. Mais en fait, je pense que évidemment, on peut pas parler de féminisme sans parler de dans la pop culture en tout cas, sans parler de l'aspect sexualisation, femmes dénudées, etc. Et du coup, que ce soit l'une comme l'autre, elles sont souvent, nues ou en tout cas très dénudées, elles laissent voir beaucoup de parties de leur corps, etc. Après, est-ce que c'est un mauvais point dans le féminisme? Ça, c'est de toute façon une vraie question dans le féminisme global, oui. Et au-delà de la culture pop, en fait. C'est ce truc de est-ce qu'on est body positive? Est-ce que la réappropriation du corps, est-ce que se montrer, c'est une réappropriation du corps, ou est-ce que c'est justement essayer de plaire au mec et donc voilà, se voir dans le prisme masculin, etc. Donc il y a quand même un gros truc autour de ça. Bon, clairement, les deux sont à noter pour ça. Hein, donc voilà.
Pour moi, Rihanna a un petit mauvais point dans cette histoire, c'est le fait qu'elle se soit remise en couple avec Chris Brown après qu'il l'ait violentée.
Oui, c'est sûr.
Ça, c'était dommage, mais bon. C'est compliqué, l'âme humaine.
Et complètement. Et d'un autre côté, je trouve que ça... Enfin bon, du coup, c'est contre son gré, mais en fait, ça dénote aussi vachement de tout ce qui est emprise, etc. Mm. Parce qu'en fait, potentiellement, c'était le cas et elle était sous l'emprise de ce mec. Et en fait, voilà, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, souvent, on leur dit, t'as qu'à partir. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ouais.
Bon, pour le coup, là, elle était déjà partie, etc. C'est un autre débat. Mais du coup, ça met aussi en avant des notions qui sont assez intéressantes dans le féminisme, même si du coup, c'était pas voulu. Pour les deux, hein, y a un marketing de toute façon autour du féminisme. Mais bon, après tout, c'est aussi une fenêtre sur des valeurs qui devraient être universelles. Donc, même si finalement c'est un peu de l'opportunisme, est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir aussi un peu quand même, même s'il y a beaucoup de capitalisme, etc., et que finalement le féminisme doit être, en tout cas, c'est mon avis, anticapitaliste. voilà, est-ce que c'est pas quand même déjà une première éducation aussi, parce que du coup les petites filles connaissent Beyoncé, connaissent Rihanna. Pour moi, c'est aussi une première ouverture sur ces sujets-là, quoi. Et du coup, donc là, je reviens sur le féminisme, mais en fait, là, on a choisi d'élargir à tout ce qui est philanthropie, etc. Et en fait, Queen Bee a aussi lancé sa Bay Good Initiative, qui est du coup un espèce de mouvement où en fait, elle aide sur plusieurs thématiques. Et alors, j'ai aussi, en préparant ce podcast, appris qu'elle avait offert 100 000 euros à une de ses fans pour qu'elle puisse poursuivre ses études. C'est quand même offrir à une fan de l'argent pour qu'elle puisse s'extraire de la société et avoir éventuellement une expertise, etc. Donc c'est quand même très chouette.
C'est la bourse Beyoncé.
Ouais, c'est ça. C'est mieux que le Crous, hein, clairement, ouais, parce que 100 000 euros, on n'a pas ça avec le Crous. Mais voilà, Rihanna aussi, hein, elle a un peu, enfin, elle est aussi très féministe puisque elle a aussi cette force, cette image de l'indépendance, cette image de femme qui sait ce qu'elle veut et qui en veut. C'est une femme d'affaires, hein. Enfin voilà, on en a parlé tout à l'heure par rapport au look. Enfin voilà, elle fait beaucoup de marketing, elle fait beaucoup de collabs, que ce soit avec des marques ou avec d'autres artistes. Elle a une carrière d'actrice. Enfin, elle est vraiment sur beaucoup de points. C'est une vraie philanthrope en fait. Elle est engagée dans plusieurs causes, pas spécifiquement le féminisme, mais aussi, disons que sur le féminisme, c'est plutôt Beyoncé, et sur les minorités racisées, etc., c'est peut-être plutôt Rihanna, en fait. Elle avait d'ailleurs reçu un prix à Harvard récemment.
D'accord.
Voilà. Et juste, j'avais trouvé aussi, en préparant ce podcast, une citation de Sophie Bramley, qui est une nana du collectif 52. Donc c'est un collectif féministe, donc 52 comme 52% de femmes dans le monde. Et en fait, elle disait, Beyoncé et Rihanna ont plus fait pour la troisième vague féministe que beaucoup d'intellectuels. Et je trouve qu'en fait, c'est assez intéressant parce que, est-ce qu'on est obligé de toute façon de dire, voilà, elles ont fait plus que d'autres ? C'est peut-être pas le but, mais en tout cas, de dire qu'elles ont fait beaucoup pour le féminisme, je pense que c'est une vraie... C'est un vrai fact, en fait.
Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve ça intéressant comme approche. Je suis très partisan de dire que c'est aussi beaucoup grâce à la pop culture qu'on fait évoluer les mentalités et de manière douce. Enfin, d'ailleurs, ça s'appelle le soft power. Et je suis toujours extrêmement content quand on féminise ou racise des personnages, ou les deux à la fois d'ailleurs, dans le cas de 007 il n'y a pas longtemps.
Tout à fait.
Des personnages de pop culture connus, et je trouve que c'est toujours des grands progrès. Moi, ça me plaît beaucoup, donc je suis assez d'accord avec ça, à titre personnel.
Et du coup, ça m'amène à la conclusion que... Martin, si tu es d'accord, j'aimerais ne pas trancher ce débat, en fait, et ne pas élire la plus forte. J'aimerais être un peu subversive sur ce, sur ce podcast. Et du coup, au lieu de mettre en concurrence constamment les femmes pour ce qu'elles font et pour ce que... Enfin, voilà, est-ce qu'on peut pas juste être... se réjouir, en fait, qu'elles soient toutes deux des femmes très médiatisées et très... très connues, qui mettent en avant des valeurs universelles, et donc ne pas les mettre en concurrence, ne pas dire quelle est la meilleure, mais juste dire qu'elles sont toutes les deux des très belles femmes et des très belles femmes d'affaires, et voilà quoi.
Bah, je valide complètement. Donc ce c'est qui la plus forte n'aura pas de
victorieuse.
Aucune chanteuse ne sortira victorieuse de ce c'est qui le plus fort. On demande au passage à l'Académie française de trouver un féminin à vainqueur, parce que je suis en galère à chaque épisode où il y a des femmes. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment besoin. Donc voilà, match nul, ou plus exactement égalité. Ou plus exactement, elles remportent toutes les deux le combat.
Ouais, exactement. Je trouve que c'est beau.
Et puis c'est bien de vous garder des twists, parce que voilà, est-ce qu'il y aura un vainqueur ou quelqu'un qui gagnera à chaque fois, on ne le sait pas. Il peut y avoir des matchs nuls. C'est pas la première fois. Il y avait eu aussi match nul entre Mère Teresa et Sœur Emmanuel dans un autre registre.
Bah, ce qui est finalement pas très loin. C'est des, j'ai des, confondu d'ailleurs un
c'est
jour.
Des, c'est des pop stars aussi.
Exactement.
Bon, bah merci Amélie, merci beaucoup.
Eh ben avec plaisir, merci Martin pour l'invitation, c'était très chouette.
Bah, je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Eh ben du coup, on peut me retrouver dans le podcast sur les comédies musicales qui s'appelle Les Rois du Monde, etc. Enfin, je ne fais pas le titre en long, mais je pense que c'est. Ça, c'est un bon argument marketing, pardon. Rihanna apprécierait. Je pense que c'est le podcast au plus long nom, en fait, hein, clairement.
Oui, c'est le podcast qui a le plus long nom du monde, je pense.
Voilà. Donc, donc en tout cas, retrouvez-nous dans sa version courte, Les Rois du Monde, etc., sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà.
C'est un excellent podcast produit par un excellent label de podcast qui s'appelle Micro Stockholm.
Tout à fait.
Donc C'est qui le plus fort est un podcast Micro Stockholm réalisé et animé par Martin Gamara. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions du label sur www.micro-stockholm.fr. Vous pouvez également aller quand même voter sur c'est qui le plus fort.com pour votre chanteuse préférée entre Rihanna et Beyoncé si vous le voulez. Et ce qui serait génial, c'est que vous arriviez à faire match nul, vous concertez et vous essayez de faire autant de votes de part et d'autre. Ça serait extrêmement swag. Eh bien, merci Amélie, merci à toutes et à tous, et à très bientôt pour un autre affrontement.
Merci et à bientôt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.